13h30 sur Radio Judaïka ce vendredi. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver le grand rabbin Harold Avram Weil, accompagné de Jean Chekroun, pour le commentaire de la paracha cette semaine consacrée à Pessah.
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Yidelech, prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Radio Judaïka Strasbourg pour ce nouveau rendez-vous un peu spécial cette semaine du commentaire de la paracha, puisque cette émission sera essentiellement consacrée à Pessah, comme à chaque fois. À mes côtés, le rabbin Avram Harold Weil, grand rabbin de Strasbourg et d'Ibrahim. Monsieur grand rabbin, bonjour.
Bonjour Jean, je suis très heureux de vous retrouver.
Et avant de parler de Pessah, monsieur le grand rabbin, qui débute mercredi soir pour le premier seder, on va parler d'abord du Shabbat qui débute ce soir, Shabbat Parashat Tzav, Shabbat Agadol, l'allumage des bougies ce soir avant 19h39 et demain la fin du Shabbat à partir de 20h47. On n'oublie pas évidemment de souhaiter un refouach chez les mains à tous les malades et un Shabbat Shalom particulier à nos aînés et aux personnes isolées. Permettez-moi, monsieur le grand rabbin, avant tout, de remercier au nom de toute ma famille, toutes les personnes, et elles ont été nombreuses, qui nous ont apporté leur soutien lors du décès de ma maman. Soyez-en tous remerciés, les gens qui sont venus au Shiva et autres. Et je voudrais particulièrement remercier le docteur Judas Toledano, Maurice Zahan, le président du consistoire, et vous-même, monsieur le grand rabbin, qui m'a été d'un énorme soutien lors de l'enterrement. Je voudrais évidemment dédier cette émission à la mémoire de ma maman qui nous manque déjà, Rivka Bat Mesruda, Zichrono Livracha. Voilà pour le petit message personnel que je voulais faire. On revient à la paracha, donc c'est Tzav, mais c'est un Shabbat Agadol. Qu'est-ce qu'il a de très grand ce Shabbat ?
Il est très grand, genre, il est magnifique, on vient de changer d'heure déjà, donc... Il va se terminer un peu plus tard, même s'il commence aussi mathématiquement plus tard. Non, qu'est-ce qu'il a de plus grand ce Shabbat ? Alors, il y a plusieurs explications qui ont été apportées. D'ailleurs, vous remarquerez que grammaticalement, on aurait dû dire Shabbat Hagedola, puisque le mot Shabbat est un nom féminin. Les explications traditionnelles qui sont données concernant ce Shabbat Hagadol sont liées à un événement qui a eu lieu le Shabbat précédent Pessah. Et j'en profite d'ailleurs, Jean, pour faire remarquer à nos auditrices et nos auditeurs que cette année, nous sommes exactement au niveau des jours de la semaine dans la même configuration que celle de la sortie d'Égypte, à savoir un Shabbat Hagadol d'Inissan, donc qui tombe un Shabbat, en l'occurrence, un d'Inissan qui tombe un Shabbat, et une sortie d'Égypte donc, qui a eu lieu le jeudi, Yom Hamishi. Et il s'avère, et vous n'êtes pas sans l'ignorer, Jean, que la demande avait été faite, l'ordre avait été donné aux Béné Israël, aux enfants d'Israël, d'accrocher un agneau au pied de leur lit, le d'Inissan, en l'occurrence un Shabbat. Et cette prise de risque, qui en était une, hein, pour l'époque, il faut imaginer l'agneau comme étant une divinité, donc il y avait un petit côté provocateur ici, au travers de cette injonction, eh bien, c'est passé finalement sans encombre. Donc le peuple d'Israël a déjà à ce moment-là bénéficié d'un grand miracle, puisque malgré tous ces agneaux attachés au vu et au su de l'ensemble des Égyptiens, eh bien, ils n'ont pas été en mesure de réagir, et ce qui a conféré à cette grande journée finalement le nom de Gadol, et on a gardé par la suite ce nom de Shabbat à Gadol en rapport avec ce grand miracle qui a eu lieu un Shabbat, même si on le sait, le d'Inissan ne coïncide pas forcément tous les années avec un jour du Shabbat. Il y a une deuxième explication possible, hein, peut-être un peu plus originale, qu'on a, il me semble, pas encore rapportée à ce micro, qui est rapportée par le Abou Daram, qui lui nous dit que c'est la première mitzvah qui avait été donnée au peuple d'Israël. Hein, rappelez-vous que nous sommes encore donc à quelques jours de la sortie d'Égypte, et donc a fortiori à quelques semaines du don de la Torah, donc le peuple d'Israël n'a pas encore de mitzvot, il n'a pas encore reçu de commandement. Voici le premier commandement, et en tout vous avez raison, la Mila a été donnée à Avraham, elle n'a pas été donnée au peuple d'Israël en tant que telle. La Mila a été donnée déjà à Avraham et à ses descendants. Et donc, le Abou Dharam voit au travers de l'accomplissement de cette mitzvah le passage de l'état d'enfant, du statut d'enfant à celui de gadol, à celui déjà de majeur, de quelqu'un qui est déjà concerné par les mitzvot, hein, exactement comme un bar mitzvah qui, au moment où devient bar mitzvah, eh bien, devient responsable et a l'obligation d'accomplir l'ensemble des commandements des mitzvot. Donc, ça expliquerait également cette notion de gadol. Le Maharal de Prague, lui, je propose rapidement une troisième explication, lui lit la notion de gadol, de grand, à la taille de la dracha. Alors ça ne va pas plaire forcément, et ça va peut-être décourager un certain nombre d'auditrices et d'auditeurs de venir à la synagogue demain, je ne veux surtout pas les décourager, mais le Maharal de Prague nous dit que comme eh bien, il est de coutume, de prononcer une dracha, c'est-à-dire un sermon de Shabbat à Gadol, avant Pessah, qui traite des lois de Pessah, et donc qui est un peu plus long que la dracha habituelle, eh bien nous avons donné à ce Shabbat le nom de Shabbat Agadol, donc en référence non pas au Shabbat lui-même ou au miracle qui ont lieu ce jour-là, mais plutôt à la dracha, au serment qui est prononcé par l'ensemble des rabbins.
Les dinines de Pessah.
Alors la dracha de Shabbat Agadol s'articule de coutume, là aussi de tradition, autour des dinims de Pessah. On peut bien sûr proposer également une réflexion plus profonde sur la fête, et c'est ce que ne se privent pas de faire les rabbins, mais en tout cas il y a une coutume bien ancrée, et eu égard, j'ai dit, à la complexité des dinims de Pessah par rapport aux autres fêtes. Là, les dinims sont plus nombreux, ils sont souvent plus complexes, eh bien il y a une tradition de traiter tout particulièrement des lois relatives à la fête de Pessah.
Un mot sur la paracha de Tzav, paracha importante, puisqu'il y a pas mal de commandements qui sont aussi énoncés.
Alors, c'est une paracha qui reste très technique. On est exactement, on est dans la lignée de la paracha de la semaine dernière, paracha de Vaïkra. On l'avait annoncé, nous l'avions rappelé. Le livre de Vaïkra est un livre très technique, consacré, en tout cas dans toute sa première partie, à l'énumération des korbanot, des différents sacrifices. Et donc, on aborde des points finalement assez techniques. Et ce sera le cas aussi dans cette paracha de Tzav, donc essentiellement consacré aux korbanot, aux sacrifices. Alors, on pourrait se poser la question du lien qui existe entre la paracha de Tzav et la fête de Pessah, parce qu'on a souvent une grande proximité entre cette paracha de Tzav, en tout cas lorsque nous ne sommes pas dans une année embolismique comme cette année, il y a souvent une correspondance entre cette paracha de Tzav et Shabbat Agadol. On a du mal à trouver le lien, peut-être au travers de l'importance justement des korbanot, puisque même s'il n'est pas question du korban Pessah, du sacrifice pascal dans la paracha de Tzav, on met quand même en avant l'importance du travail sacrificiel. Et ce Corban Pessah, ce sacrifice pascal, a une place très très importante à Pessah. Donc peut-être le lien est à trouver, est à chercher au niveau de l'importance des sacrifices.
Alors on passe à la fête de Pessah avec, pour commencer, le premier seder. Ce sera donc à partir de mercredi 20h50. L'interdiction de consommer du Hametz sera mercredi à partir de 10h48 et le bio avant 12h08, le bio, c'est la description du Hametz. Avant l'allumage des bougies de cette fête, il y a un petit cérémonial qui s'appelle Eruv Tashvilin. C'est quoi exactement cette cérémonie ou cette préparation?
Alors vous faites bien de remarquer, Jean, qu'au vu de la configuration de cette année, il y a effectivement le procédé Eruv Tashvilin qui est obligatoire si on veut se donner la possibilité de pouvoir préparer les repas du Shabbat, parce que vous le savez, il y a une interdiction de préparer les repas de Shabbat un jour de Yom Tov. C'est-à-dire qu'un jour de Yom Tov, même s'il y a une autorisation de cuisiner, comme on le sait, c'est la grande différence entre Yom Tov et Shabbat, bien sûr à certaines conditions, nous ne faisons pas à ce micro maintenant un cours de halakha, il y a néanmoins une interdiction de préparer d'un jour qui a une sainteté sur un autre jour, d'accord, qui a une autre sainteté, donc on ne peut pas préparer en principe des aliments cuits du Yom Tov sur le jour du Shabbat. Alors comment faire? Parce qu'on est bien embêté, on est bien obligé de manger le jour du Shabbat. Eh bien, nous procédons à un Eruv Tashvilin qui consiste à réciter une bénédiction avant, bien sûr, tout cela doit être récité avant le début du Yom Tov, donc mercredi encore dans la journée, on le fera avant de partir à la synagogue, à prendre, donc là en l'occurrence c'est Pessah, donc on va prendre une matzah, une challah ça serait un peu problématique, nous allons prendre une matzah, nous allons prendre un autre aliment, alors le plus simple est de prendre un aliment qui se conserve facilement, comme un œuf, mais on peut très bien prendre un morceau de poisson ou un morceau de viande. Et vous avez compris, Jean, que l'astuce ici, c'est d'avoir deux types d'aliments avec deux cuissons différentes. Hein. Un aliment qui est cuit au four, hein, qui est cuit directement au feu, et un autre aliment qui est cuit avec de l'eau. Ce sont deux sortes de cuissons dans l'halakha qu'on appelle bishoul et afia, et qui permettront de générer justement ces deux actions par la suite, de pouvoir autoriser ces deux actions par la suite. Et donc en récitant cette bénédiction, et puis une petite formule d'usage, en araméen, mais que j'invite absolument à dire en français, hein, pour ceux qui ne comprennent pas l'araméen, pour comprendre ce que l'on dit, eh bien en quelque sorte, nous affirmons que nous démarrons déjà à ce moment-là, la préparation des repas de Shabbat, et donc que nous ferons par la suite que poursuivre en réalité une préparation qui a déjà commencé. À partir du moment où nous ne faisons que poursuivre une action que nous avons déjà commencée, eh bien cette action devient permise, parce que ce n'est pas une nouvelle action, mais la continuité d'une action.
Mais la matzah et l'œuf qu'on a mis de côté, il faut la manger.
Alors il ne faut surtout pas, et c'est bien sûr ici donc toute l'astuce, il ne faut surtout pas les consommer avant Shabbat.
Ah.
Parce qu'à partir du moment où nous nous inscrivons dans la prolongation d'une action, il faut absolument que ce repas que nous avons commencé à préparer ne soit pas consommé, qu'il reste encore physiquement présent, on va dire, jusqu'au Shabbat. Certains, et c'est ce que je conseille pour enjoliver bien sûr la mitzvah, eh bien, ont l'habitude de consommer ces éléments, et notamment de le faire à Souda Shlichit, donc le troisième repas de Shabbat. On utilisera la matzah du Eruv Tov Shilin pour faire la bracha de Motzi, accomplir la mitzvah de Motzi à Souda Shlichit. Voilà, si jamais vous avez par mégarde consommer les aliments du Hérouve, voilà, on pourra consulter.
Si on a oublié de faire le Hérouve, impossible de cuisiner.
Alors, en principe, c'est effectivement un problème, mais il faut savoir, alors je vais peut-être faire un scoop à la radio pour les personnes qui ne le savent pas, que le Rav de la ville, ou le Dayan de la ville, a l'habitude de faire un Hérouve pour l'ensemble des personnes, mais attention, attention, ceci ne fonctionne pas pour des personnes qui sciemment voudraient se reposer D'accord. sur ce Hérouv. Ça ne marcherait que pour quelqu'un qui aurait totalement oublié de faire le Hérouv, ou qui aurait éventuellement consommé son Hérouv, mais sûrement pas pour une personne qui sciemment va se dire, bah, si le rabbin le fait pour moi, je n'ai pas besoin de faire mon Hérouv Tachim. Et donc il faut savoir que la tradition est que le rabbin puisse faire un Hérouv qui puisse fonctionner pour l'ensemble des habitants de la communauté.
Alors, l'allumage des bougies pour le mercredi soir, c'est entre 18h35 et 20h. Et samedi soir, ce sera le début de Chol HaMoed à l'issue de l'office du soir. Quand on parle de Pessah, on parle d'une fête de liberté. Pourtant, dès le début du Pessah, on a un CDR, c'est-à-dire l'ordre. Question, monsieur le rabbin, la liberté, ça commence par de l'ordre ?
Alors, c'est une excellente question. En fait, vous posez, j'ai envie de dire, Jean, presque, c'est la question de Pessah. C'est la question de Pessah, ce paradoxe qui existe tout au long de la soirée entre une forme de céder. Et effectivement, vous avez rappelé à quel point l'ordre est important le soir du céder. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas inverser les étapes. C'est important de le rappeler, nous avons 15 étapes. Ces étapes, nous les énumérons. Kadesh Ucha, d'ailleurs, on commence par le chant de Kadesh Ucha. Et je rappelais lors du pré-céder communautaire que nous avons... enregistré il y a quelques jours, que la tradition ashkénaze est de répéter ces différentes étapes entre chaque étape pour bien montrer exactement où nous en sommes et bien sentir la progression qui est la nôtre durant cette soirée du Seder. Donc il y a un ordre établi, un ordre auquel nous ne pouvons pas toucher, et à la fois, comme vous le dites, il y a ce paradoxe parce que beaucoup de libertés semblent être prises durant la soirée du Seder, même si vous le direz, au travers du récit de la sortie d'Égypte, il y a un texte qui nous est proposé par le Baal Haggadah, par la personne qui a rédigé la Haggadah, mais pour autant, le texte lui-même a parfois l'air désordonné. Donc, la soirée du Seder, c'est en quelque sorte une espèce de désordre dans l'ordre. Et comment concilier ces deux notions qui sont totalement antinomiques ? Et pour répondre à votre question, finalement, comment percevoir une notion de liberté au travers de quelque chose qui est cadré? Eh bien, je crois que c'est la réponse finalement que donne la Torah. Elle vient couper court un petit peu à l'idée populaire qu'on pourrait se faire de la liberté. Comme quoi la liberté, ça serait faire n'importe quoi, ça serait
donc
faire tout ce que l'on veut.
Être donc,
bien sûr, né, d'ailleurs, il y a un grand adage talmudique qui nous dit que En ben chorin el ami sheosek batorah, finalement, le véritable homme libre, c'est celui qui s'adonne à l'étude de la Torah, parce que c'est au travers de cette étude, finalement, au travers de la manière dont il va se nourrir spirituellement, dont il va donner du sens à sa vie, qu'il acquiert une certaine forme de liberté. La liberté n'étant pas la capacité finalement à donner libre cours à toutes ses pulsions, non. Je crois qu'un cadre est au contraire quelque chose qui va catalyser en quelque sorte cette notion de liberté. Mais c'est effectivement une idée, j'ai envie de dire, tout à fait originale que nous propose la Torah et qu'on nous propose de vivre le soir du Seder.
Alors, on a parlé tout à l'heure concernant le Korban Pessah, on en parle beaucoup dans la Haggadah. C'est tellement important, cette histoire d'agneau avec son sang.
Le Korban Pessah, le sacrifice pascal, occupe une place primordiale durant la soirée du Seder. Et vous avez raison de souligner que c'est d'autant plus marquant, c'est d'autant plus interpellant qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de Beth Amikdash, nous n'avons plus de temple et que nous, par définition, eh bien, nous ne consommons plus de Korban Pessah, de sacrifice pascal. Nous nous contentons tout simplement d'en rappeler le souvenir, d'en évoquer le souvenir au travers, notamment bien sûr, du plateau du Seder, avec la présence de l'os sur le plateau du Seder, ou bien de la matza que nous consommerons à la fin du Seder, au moment de la Fikoman, après le repas, donc avec cet aliment qui doit, le goût de cet aliment qui doit nous rester en bouche. C'est la raison pour laquelle on ne termine pas par une mousse au chocolat. Enfin, on peut terminer par une mousse au chocolat, mais il faudra quand même consommer la Fikoman après. On ne consommera pas la mousse au chocolat après la Fikoman, parce qu'il faut rester avec le goût, justement, de ce... entre guillemets, de ce simulacre ici de Korban Pessah, parce qu'il n'y a plus de sacrifice pascal. Mais en tout cas, c'est bien avec ce goût de matzah qui commémore l'agneau pascal que nous devons quitter la table du Seder et aller nous coucher. Alors pourquoi
le sang sur le linteau des Bnei Israël, c'était aussi du sang de...
Tout à fait, ouais. C'était, bien sûr, c'était un sang qui était pris justement de ce Korban Pessah, de cet agneau pascal qui avait été sacrifié. D'ailleurs, ce sang sera aussi présent sur la table du Seder, puisqu'on va le retrouver ou bien au travers, bien sûr, des quatre coupes de vin, dont la couleur rouge évoque le sang, alors qu'il peut être à la fois le sang de la Brit Mila et le sang... le sang du linteau hein, qui a permis de sauver les premiers-nés hébreux, mais en même temps c'est le sang des 10 plaies. Donc on retrouve encore une fois ce paradoxe et ce désordre dans l'ordre. C'est vraiment une notion que je trouve particulièrement intéressante, de voir à quel point tous les éléments du Seder ont l'air parfaitement antinomiques, et l'objectif du soir du Seder, c'est de remettre de l'ordre. Mais je reviens sur votre question concernant le Korban Pessah. Effectivement, la place est centrale parce que au travers de ce sacrifice de l'agneau pascal, il y avait le renoncement à un certain confort, finalement, même si les Hébreux étaient esclaves. À un moment donné, l'esclave finit par s'habituer, il finit par accepter même les conditions minimales de confort qui sont les siennes, mais il y a une sécurité. Alors je le dis, le soir du Seder, on se jette à l'eau. C'est accepter de vivre une vie qui soit différente et accepter de se purifier en quelque sorte de toutes les idées, de tous les prérequis, de toutes les stéréotypes hein, que l'on a pu emmagasiner, dont on a pu s'imprégner tout simplement au contact des civilisations et au contact des personnes que nous avons eu l'habitude de fréquenter. Et c'est exactement ce qu'ont fait les Bnei Israël au moment où ils sont sortis d'Égypte. Il y avait un préalable à cette sortie indispensable qui était de sacrifier cet agneau pascal pour montrer que finalement tous ces mœurs dont ils avaient été imprégnés pendant ces années et qui les avaient un petit peu détruits de l'intérieur étaient appartenaient désormais au passé et qu'ils étaient capables de s'en libérer.
Alors, ce qui est très bizarre dans la fête de Pessah, c'est que la liberté, l'esclavage, tout est rassemblé avec des aliments. On aurait pu croire qu'on aurait dû porter une brique jusqu'à la synagogue ou je ne sais quel artifice. Pourquoi tout est centré sur des aliments qu'on doit mélanger, qu'on doit assaisonner, qu'on doit faire le karpas, le charoset? C'est quoi cette idée-là ?
Alors vous avez raison de faire remarquer que même si l'alimentation est très présente dans notre tradition, au travers de toutes les fêtes, parce que je rappelle qu'il y a une obligation de prendre des repas, il y a une coutume alors qui relève plus de la coutume que de la mitzvah à proprement parler, lors de certaines fêtes, de consommer certains aliments. Je pense bien sûr à Rosh Hashanah et toute sa série d'aliments comme la pomme dans le miel ou les autres aliments qui sont consommés. Mais à Pessah, effectivement, la consommation de ces aliments relève de la mitzvah. Elle ne relève pas uniquement de la tradition ou de la coutume, mais véritablement de la mitzvah. Pourquoi ? Parce qu'il est important de se nourrir aussi bien spirituellement du récit de la Haggadah que de ressentir les choses physiquement. Le fait de s'imprégner physiquement de l'expérience de la sortie d'Égypte et de la revivre, et je rappelle à ce titre-là que la célébration du Seder n'est pas une commémoration, mais bien une célébration. Mmh. Chaque année, lorsque l'homme juif ou la femme juive est amené à célébrer le Seder, il revit ou elle revit l'histoire de la sortie d'Égypte. Nous ne sommes pas simplement dans la commémoration d'un événement passé, lointain, qui
mais
nous...
Tout passe par la nourriture, je veux dire, il n'y a aucun acte comme le loulav.
Absolument pas, Jean. On est loin de passer par la nourriture, puisque nous sommes la seule fête, la fête de Pessah, où on va mettre, je reprends là, à mon compte la belle formule du rabbin Ribbo, nous allons mettre un livre dans notre assiette. Nous venons à peine de réciter le kiddush. Traditionnellement, immédiatement après le kiddush, nous enchaînons avec le repas. Et d'ailleurs, je rappelle que traditionnellement, il est important de faire Netilat Yadayim immédiatement après le kiddush et de ne pas attendre, sans quoi on rentrerait dans une problématique de hefsek, de coupure. Quoi. Là, il y a volontairement une coupure qui est imposée et nous allons prendre le temps de lire ce récit, de le mettre dans notre assiette au moment où nous apprêtons à manger. Eh bien non, on s'imprègne d'abord de toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Je rappelle, Jean, que c'est la partie la plus longue de la soirée du Seder, et donc on voit bien, encore une fois, que le soir du Seder, il y a ce paradoxe entre la nécessité, la volonté de la part de la Torah de nous permettre d'ingérer, en quelque sorte, le livre de la Haggadah et d'ingérer cette histoire, et puis d'y mêler également une dimension, cette fois-ci, beaucoup plus physique. Et on en a besoin, parce que tout être humain a besoin de ces deux dimensions pour se nourrir, pour s'imprégner des choses,
certains vont être beaucoup plus sensibles.
Le réfort nous permet de ressentir physiquement l'amertume. Lorsqu'on ressent l'amertume du réfort, eh bien, c'est le corps finalement à ce moment-là qui parle, et c'est le corps qui réagit, et c'est le corps qui peut éventuellement, bien sûr, à une toute petite échelle, eh bien, comprendre ce que représente une souffrance physique.
Il y a un chiffre magique pendant cette fête de Pessah, c'est 4. 4 kossotes, les 4 enfants, et j'en passe et d'autres. Pourquoi le 4 ? Quelle symbolique ?
Il y a beaucoup de symbolique au travers de ce 4, vous avez raison, vous n'avez cité que quelques exemples, vous avez parlé des 4 enfants, des 4 coupes, il y a 4 étapes, je le dis dans le Seder aussi, même si on a 15 étapes en réalité, mais on a 4 parties dans le Seder, j'aime bien le rappeler, hein. On a la première partie qui est celle du Kiddush, puis la partie du récit de la Haggadah avec ce long repas en quelque sorte spirituel, et puis on va avoir toutes les mitzvot de consommation des aliments, et c'est la troisième partie, et puis une quatrième partie qui est le Hallel et qui est les chants.
Mais dans la Haggadah, on ne parle pas uniquement de la sortie d'Égypte, puisqu'il y a des passages qui parlent de l'histoire de Nevrak ou des trois rabbins, il y a l'histoire de...
Ça, c'est totalement lié à la sortie d'Égypte, puisqu'on rappelle un événement qui s'est déroulé lors d'une soirée de Seder, justement.
Mais il n'y a pas uniquement l'histoire de la sortie d'Égypte.
Non, et c'est toute une discussion, justement, dans le Talmud, vous le rappelez à juste titre, pour savoir où est-ce que doit démarrer cette histoire, finalement. Est-ce que cette histoire, elle démarre au moment de l'esclavage égyptien, ou est-ce que cette histoire, elle démarre bien plus en amont, en réalité, et finalement, on va un petit peu trancher comme les deux avis. Alors là où il y a un consensus, c'est sur le fait qu'il faut absolument démarrer, on va dire, par la partie la moins prestigieuse de notre histoire, pour montrer comment est-ce que nous avons été capables de changer, de nous transformer et d'esclaves, du statut d'esclave, ou pire que ça, parce que le statut d'esclave est un statut subi, tandis que le statut d'idolâtre n'était pas un statut subi, c'était un statut choisi. Et donc de montrer, et nous n'avons pas honte de dire que nous n'avons pas toujours fait les bons choix, mais que toute notre grandeur tient dans le fait qu'à un moment, nous avons été capables de changer. Nous avons choisi de prendre une autre voie. Donc c'est toute la discussion, et donc il y a un consensus sur le fait qu'on démarre par la partie la moins prestigieuse pour terminer avec la partie la plus noble. Mais là où il n'y a pas de consensus, c'est où est-ce que démarre cette histoire ? Et finalement, eh bien, on va démarrer la Haggadah avec les deux histoires, finalement l'une après l'autre, pour bien montrer qu'au travers de ces deux histoires, aussi bien de l'histoire très ancienne, de nos ancêtres qui étaient idolâtres, que l'histoire plus récente de nos ancêtres qui ont subi l'esclavage, il y a de très très nombreuses richesses à découvrir et des leçons très très importantes. Le chiffre 4, j'y reviens quand même rapidement, il peut symboliser les 4 points cardinaux. Voilà, le soir de Pessah, c'est aussi le soir de la proclamation de notre statut d'homme libre et de notre volonté finalement de sortir de ce statut d'esclave, de personne qui était à ce moment-là totalement sous la sous la contrainte d'un pharaon pour devenir, quelque sorte, des esclaves, mais les esclaves de Dieu cette fois-ci. Et donc il n'y a pas plus libre finalement qu'un serviteur de Dieu. Et au travers de ces quatre points cardinaux, d'ailleurs nous terminerons toute l'ultime partie du Seder par des chants, par des louanges, hein, la deuxième partie du Hallel et des louanges qui sont à la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et au travers de ce chiffre 4 qui représente les quatre points cardinaux, il y a aussi la volonté de montrer l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu.
Une question que j'ai vécue, il y a des fois des gens qui ont des enfants ou des personnes âgées qui ne peuvent pas aller au-delà du repas et qui ne peuvent pas faire de halal. On fait quoi
Alors, je le dis à ce micro, c'est très très important. Il faut bien sûr, et je le dis, Chacham Enav Berosho, l'homme sage anticipe, il faut adapter le CDR, bien sûr, à la condition des personnes qui se trouvent autour de la table. Alors, bien sûr, on ne va pas se priver de rester la dernière partie du CDR parce que les enfants se sont endormis. Ce qui est important, c'est de les maintenir en éveil au début du CDR. Et nous avons toutes sortes d'astuces pour cela. D'ailleurs, la Torah elle-même, la Torah l'a prévu et le Baal HaGadah lui-même aussi l'a prévu puisqu'on a introduit certaines choses dans le CDR, comme le Karpas, d'ailleurs, justement, qui n'est là que pour maintenir les enfants en éveil. Vous avez bien remarqué également, Jean, que le Manishta, qui est la partie phare chantée par les enfants, se retrouve au tout début de la partie du Magui, de telle sorte que si les jeunes enfants s'endormaient par la suite, eh bien, au moins ils auraient déjà accompli la première partie du Seder et posé leurs questions. Pour des personnes âgées qui elles sont assujetties à l'ensemble des mitzvot, bien sûr il est important qu'elles puissent faire l'ensemble du Seder, et donc dans ce cas-là on fera éventuellement un Seder un peu plus court, on ira un peu plus rapidement sur la partie du Magui, de telle sorte à ce qu'elles puissent accomplir la totalité du Seder. Et je pense notamment surtout à la Ficoman, c'est vraiment très très important de terminer la Ficoman et de boire les quatre coupes. En réalité, bien sûr qu'il faut aller jusqu'au bout du Seder et même terminer la lecture du Hallel et le Nirtza, mais il y a des incontournables, j'ai envie de dire, qui sont la consommation de la Matzah, et très important, la consommation de la Ficoman et la consommation des quatre coupes de vin. Alors, je rappelle que si on s'arrête au moment du repas, et on est passé à côté de deux des quatre coupes de vin et on n'a pas consommé la partie essentielle de la Matzah qui est la Ficoman.
Alors, à contrario, il faut le signaler, parce que les gens l'oublient, c'est qu'il y a un horaire maximum qu'il faut pas dépasser où il faut manger la Ficoman. On rappelle que quand vous avez mangé la Ficoman, vous ne pouvez plus rien consommer, à part évidemment les coupes de vin ou de jus de raisin selon votre mode. Vous confirmez ?
Alors je confirme, effectivement, c'est une machloquette entre Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva. Il y a une grande controverse dans la Gemara, c'est un sujet passionnant pour savoir quelle est leur limite de consommation de la Ficoman. Pour Rabbi Elazar ben Azaria, ce sera Chatzot, donc le milieu de la nuit. Hein, c'est pas minuit, mais c'est le milieu de la nuit. Mmh. Et pour Rabbi Akiva, eh bien, on aura la possibilité de consommer cette matzah un peu plus longtemps, jusqu'à l'aube. La halakha, très étrangement, alors que normalement elle suit la vie de Rabbi Akiva, la halakha est tranchée ici comme Rabbi Elazar ben Azaria. Et donc, on fera, en tout cas dans la mesure du possible, on essaiera de consommer cette matzah avant Chatzot, avant le milieu de la nuit. Si jamais on n'a pas vu le temps passer, et bien sûr qu'il faudra malgré tout consommer la Ficoman. Il y a également une astuce. Alors, Chatzot Alayla cette année, hein, je rappelle, c'est 1h30, donc ça laisse quand même un petit peu de temps pour arriver jusqu'à la consommation de la Ficoman. Il y a une astuce qui existe, qui est rapportée par le Avnei Nezer et qui consiste à faire une sorte de tenaille, à poser une condition finalement en quelque sorte. Si on voit que l'heure de la consommation de la Ficoman se rapproche et qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'aura pas le temps, il y a une possibilité de manger à ce moment-là, exactement, de consommer à ce moment-là une matzah, en se disant que si jamais la halakha suit la vie de Rabbi Elazar ben Azaria, eh bien que cette matzah qu'on consomme maintenant soit considérée comme la Ficoman, et si jamais ce n'est pas le cas, eh bien ce sera la matzah qu'on consommera plus tard qui sera considérée comme la Ficoman.
Le mieux, c'est terminer avant 1h30, ça permet aussi d'aller tout le lendemain à la synagogue. Une question plus générale, monsieur le grand rabbin, sur le prix exorbitant des produits de Pessah.
Dont je ne suis malheureusement pas responsable, je le constate comme vous, avec beaucoup de tristesse.
D'accord, mais ça coûte cher d'être libre alors.
Ça coûte très cher d'être libre. On termine sur une question un petit peu politique. Malheureusement, je ne suis pas responsable. Je peux vous assurer qu'on a fait beaucoup d'efforts énormément d'efforts pour essayer de sensibiliser tous les commerçants, pour essayer de sensibiliser tous les partenaires de la cacheroute à l'inflation, hein, parce que cette inflation, finalement, elle vient se rajouter sur des prix déjà extrêmement chers des produits de Pessard, qui sont liés à tout un tas d'arguments. Encore une fois, voilà, je ne suis pas commerçant et je ne travaille pas dans la grande distribution, je ne suis simplement qu'un grand rabbin extrêmement soucieux de la vie de ses fidèles et de leur capacité à pouvoir vivre leur vie juive, quels que soient leurs moyens, sans avoir à faire des concessions sur la cacheroute. Mais je le disais, l'inflation, malheureusement, n'a pas aidé. Elle n'a fait qu'ajouter, finalement, qu'augmenter des prix qui étaient déjà extrêmement chers. C'est la raison pour laquelle on a essayé au maximum de sensibiliser les commerçants pour qu'au moins, sur des produits, on va dire, phares et des produits essentiels, il puisse y avoir un accès à toutes les personnes. Bien sûr, je profite de ce micro pour remercier tous nos partenaires et tous les acteurs à Strasbourg du social qui ont fait un travail mais vraiment remarquable. Je ne vais pas les citer de peur d'en oublier parce qu'il y a beaucoup d'associations, mais ils font un travail remarquable pour permettre aux personnes les plus démunies de pouvoir faire leurs courses dans de bonnes conditions.
Deux questions, j'en ai terminé. Le deuxième soir de Pessard, on parle du Homer. On commence le conte du Homer. C'est quoi le Homer ?
Alors le Homer, c'est une mesure d'orge qui était apportée au moment, justement, à partir de ce deuxième jour de Pessard. Et elle lançait, hein, en quelque sorte, un compte à rebours de 49 jours qui s'achève le 50e jour, enfin qui s'est achevé avec
Shavuot.
Qui s'achève avec Shavuot, avec la fête qui célèbre le don de la Torah. Et donc, nous le savons, nous avons une obligation de compter ces 49 jours. Et donc, c'est toujours un grand moment, bien sûr, le deuxième soir de Pessard, puisqu'on lance ce compte à rebours, qui d'ailleurs n'est pas un compte à rebours, je me suis mal exprimé. C'est un compte qui n'est justement pas à rebours, ce qui sera sans doute l'objet d'une autre question dans une autre émission. Mais c'est intéressant, bien que très impatient d'arriver à la fête de Shavuot, puisque c'est l'objectif. Hein, lorsqu'on sort d'Égypte, on ne sort pas pour aller se balader dans le désert, mais on sort bien pour devenir un peuple et pour recevoir une constitution qui est la Torah. Et de manière très étrange, eh bien, on ne compte pas à rebours. Hein. En principe, quand on est impatient, on compte à rebours. Là, non, on va compter 1, 2, 3. On additionne les jours et on aura l'occasion sans doute de dire pourquoi.
Un petit mot, tout le monde ne sera pas à la grande synagogue mercredi soir pour écouter votre sermon. C'est quoi le message que vous voulez dire à nos auditeurs et à la communauté entière en tant que grand rabbin?
Le message que je veux faire passer à la communauté, c'est que cette communauté, je l'aime. Je l'aime du plus profond de mon cœur et que plus le temps passe et plus j'apprends à l'apprécier. Et plus j'apprends à apprécier toutes les personnes que je côtoie au quotidien, encore une fois, quelle que soit leur sensibilité religieuse, quel que soit leur âge, parce que je côtoie des personnes vraiment de tous les âges, vraiment du quatrième âge jusqu'aux enfants avec qui j'ai eu l'occasion de célébrer le précédaire il y a encore quelques instants avant de rentrer dans ce studio avec les maîtresses du GAN qui font un travail remarquable. Et donc de voir toute la richesse de notre communauté par rapport à tous ces profils extraordinaires qui existent, voilà, c'est quelque chose vraiment qui me réjouit. Je vois une communauté qui avance, je vois une communauté pleine d'idées, je vois une communauté avec de plus en plus de bénévoles, des gens qui nous proposent leurs services, qui proposent de venir nous aider, qui nous proposent de nouveaux projets. Et vous les voyez, ces projets, on les met en place vraiment autant que l'on peut. On n'a jamais eu autant d'activités, je pense, proposées par le CIBR que ces deux dernières années. Et je peux vous dire qu'on vous réserve de belles surprises pour après Pessard. Donc, ce que je souhaite à l'ensemble de la communauté, c'est de bien profiter de Pessard et de surtout bien profiter du CEDER. Le CEDER est toujours un moment unique. Nous sommes en diaspora, nous célébrerons un deuxième CEDER qui est une deuxième opportunité. Moi, je ne le prends pas comme une contrainte, comme certains, en tout cas, le voient, mais plutôt comme une opportunité extraordinaire, lorsqu'on est souvent moins fatigué que le premier soir, de revivre cette très, très belle expérience de la sortie d'Égypte. Rendez, je vous en prie, rendez ce CEDER interactif. Faites participer vos enfants. Ne bâclez pas, ne vous dépêchez pas d'arriver à Shulchan Aruch lorsque vous en avez la possibilité. Faites faire une sieste aux enfants et faites en sorte que ce moment soit un moment d'échange, soit un moment de partage avec la famille. C'est très très important.
Merci monsieur le grand rabbin, bon Pessard à vous et on se retrouvera non pas bientôt puisque pendant deux semaines il n'y aura pas d'émission, mais on se retrouve après pour des émissions un peu tout normales concernant le commentaire de Parasha. Chag Sameach.
Chag Sameach.
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Yidelech prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the air for Shabbos Kodesh, everyone with a soul aflame to me.